Radio Kapi.
Affaire meurtre de Tchebeaï Bazana, la haute cour militaire rejette la demande des parties civiles de faire comparaître toutes les personnalités citées par Paul Milamboué, notamment l'ex-président Joseph Kabila. Le président de la cour a jugé inopportun de faire venir au procès ces personnalités. 50 ans après sa création, la ville de Zongo dans le sud d'Ubangi vient à peine d'être éclairée. L'éclairage public a été lancé dimanche par la SNEL. La population en liesse a organisé une marche de soutien au chef de l'État qui, dit-elle, a réalisé sa promesse. Et puis, l'invité de ce matin, le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord, il s'exprime sur le contenu de la récente réunion conjointe FARDC-UPDF sur la sécurisation des travaux de réhabilitation de la route Beni-Kassindi. D'abord cette nouvelle, affaire démission de Jean-Marc Kabound. À leur tour, les députés provinciaux de Kinshasa disent prendre acte de sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale, tel qu'annoncé sur son compte Twitter officiel. Ils l'ont dit hier dans une déclaration de soutien au président de la République. Ces députés provinciaux de l'UDPS Kinshasa demandent instamment aux députés nationaux de l'UDPS d'engager la procédure de son remplacement. Ils estiment, selon eux, que le comportement de Jean-Marc Kabound d'annoncer sa démission sans informer ni consulter au préalable le président Félix-Antoine Tshisekedi et le parti n'a pour but que de saper l'autorité du chef de l'État et d'humilier le parti. Madame, Messieurs, bonjour. Justice. La haute cour militaire a débouté les parties civiles au procès du double assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Tchebeya et Fidel Bazana à l'audience publique d'hier à la prison militaire de Ndolo ici à Kinshasa. Les parties civiles, famille Tchebeya et Bazana, avaient demandé la comparution de toutes les personnalités citées par le prévenu Milamboué Paul, notamment le sénateur à vie Joseph Kabila. Par son arrêt avant dire droit, le président de la cour a jugé inopportun de faire venir au procès ces personnalités, estimant user de son pouvoir discrétionnaire et n'a pas évoqué un quelconque motif. Il a demandé à toutes les parties d'entamer leur plaidoirie dès le 26 janvier prochain. On écoute à ce sujet la réaction des parties civiles avec maître Peter Ngomo. Il est au micro de Jeff Ngoy.
Le président, partant de disposer de l'article 249, juge inopportun que l'on puisse procéder à appeler tous ceux dont nous avions voulu qu'ils puissent comparaître là et autres. Au stade actuel, nous ne pouvons pas plaider, nous avons sollicité une remise, l'État de pouvoir également nous consulter et préparer effectivement notre plaidoirie à cette audience-là. L'article 249 du Code judiciaire et militaire reconnaît au président d'une chambre ce qu'on appelle les pouvoirs discrétionnaires, mais c'est seulement dans l'unique car pour la direction des débats. Parce que nous, dans notre lettre adressée à la haute cour, nous avions évoqué la disposition de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui en fait enlèverait au président ce pouvoir discrétionnaire-là.
À Goma, au moins 804 enfants, dont 91 ex-associés aux forces et groupes armés, viennent de bénéficier des actes de naissance leur octroyant officiellement une identité et une nationalité. Les jugements supplétifs prononcés par le tribunal pour enfants de Goma ont été remis hier aux parents des bénéficiaires par l'ONG Mouvement international des droits de l'enfant, de la femme, de l'homme veuf et de leur promotion sociale. Selon Louise Mapendo, la chargée de programme de cette ONG, c'est dans le cadre d'un projet de protection des enfants vulnérables financés par l'UNICEF. Louise Mapendo Kasongo explique au micro de Bernard Denyangi.
Nous avons trois aspects dans ce projet. Il y a un volet lié à l'accès à la justice. Il y a un volet lié à l'enregistrement des naissances et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Ce projet a ciblé atteindre 2400 enfants, mais dans la réalité, nous sommes allés à 3290 dans différentes zones de santé de la province du Nord Kivu, notamment dans la ville de Goma, dans la ville de Beni, dans la zone santé de Beni et Kalunguta, et dans la zone santé de Masisi aussi. Pour la ville de Goma, nous avons atteint 804 enfants qui ont bénéficié des jugements supplétifs d'actes de naissance avec l'appui financier et technique des partenaires UNICEF. La zone santé de Beni et Kalunguta, là nous sommes allés à 1205 enfants et les enfants ont déjà reçu leurs actes de naissance avant que le projet ne prenne prenne fait à la fin du mois de février. Nous aurons aussi déjà remis les actes de naissance aux enfants de la zone santé de Massissi.
Direction la province du Sud-Ubangi, la population de Zongo continue à jubiler. Elle manifeste une liesse générale à la suite de l'éclairage public lancé depuis dimanche dernier dans la ville. Les habitants ont organisé une marche de soutien au chef de l'État. Félix-Antoine Tshisekedi avait en effet promis cette électrification de la ville grâce à un partenariat transfrontalier RCA-RDC sur financement de la Banque africaine de développement BAD, ce qui augure un élan de développement socio-économique de la ville de Zongo. Reportage Paul-Richard Malengela.
50 ans après sa création, la ville de Zongo a connu dimanche dernier l'éclairage public de ses artères. D'abord avec des groupes électrogènes de la SNEL, a indiqué le maire de la ville. Ce, en vue de tester la fiabilité des installations haute tension et réseaux domestiques, des matériels financés par la BAD, a-t-il dit, dans le cadre du projet transfrontalier RCA-RDC. Et bientôt, Zongo sera définitivement connecté à la ligne haute tension à partir de Bangui, a confirmé Michel Siazo. La gestion et la commercialisation de ce courant sont confiées à la RDC à travers la Société Nationale de Déjà, ces agences sont en cours d'installation des compteurs du type prépayé auprès des abonnés, ce qui rassure le maire Siazo du boom socio-économique et immobilier de sa ville.
À partir de l'électricité, ça va booster un peu l'économie de la ville. Il y aura des petites unités qui vont commencer à fonctionner, c'est-à-dire déjà faire développer un peu des petites activités génératives de recettes, donc à partir de l'électricité. D'ailleurs, je vous dis déjà d'emblée que nous sommes convoités. Il y a maintenant des gens qui viennent chercher des terrains ici pour construire parce qu'il y a déjà les visiteurs dans la ville des Zongo.
Le maire de Zongo a remercié le chef de l'État au nom de sa population, celle-ci qui a aussitôt organisé une marche spontanée de soutien à Félix-Antoine Tshisekedi lors du lancement de l'éclairage public et qui attend aussi sa promesse du bac reliant Zongo à Bangui, a conclu monsieur le maire. Bandaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Province de la Tshopo, les cultures pérennes et vivrières entreprises par les paysans dans le cadre du programme intégré RED plus oriental connaissent un franc succès dans la localité Penekatanga située à 76 km de Kisangani sur la route de l'Ituri. Révélation du directeur de Tropenbos RDC, le professeur Alphonse Maindo l'a fait savoir mardi lors de la visite sur place du coordonnateur humanitaire des Nations Unies et représentant adjoint de la MONUSCO, Jacques Moukonkole. Reportage.
Rassemblés dans un hangar au milieu de leur localité, les paysans engagés dans ces projets ont manifesté leur joie et proclamé leurs attentes. Joie de tirer des bénéfices immédiats de leur culture vivrière et surtout l'assurance de léguer un héritage sûr à leur progéniture. L'un d'eux témoigne.
Nous avions vu que avec la culture pérenne que nous avions reçue du projet, ça nous rassure pour la génération future.
Cette assurance provient du résultat abattu sur terrain par Tropenbos RDC. Son directeur, le professeur Alphonse Maindo, en donne quelques illustrations.
Nous avons pu réaliser 2000 hectares de palmiers en huile, alors que le projet prévoyait au départ 2200 hectares. Pour les cacao, on est un peu en deçà des demandes. Le projet prévoyait 1800, mais on est déjà à 1150. Mais on a encore de nouvelles demandes. Les cafés aussi, on a réussi à faire à peu près 200 et quelques hectares de caféiers.
Face au sentiment d'abandon redouté d'ici à la fin de la première phase de ce programme, le coordonnateur humanitaire des Nations Unies se veut rassurant quant à sa poursuite. Le PNUD et d'autres partenaires continueront à appuyer ce projet, a déclaré David Maklaklanka. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Nord Kivu, tous les actes posés par les services publics de l'État dans la ville de Beni seront désormais contre-vérifiés par la brigade d'appui aux services financiers. Objectif, maximiser les recettes de l'État en luttant contre la fraude fiscale. Cette annonce a été faite mercredi au maire de la ville par le chef d'antenne de cette brigade financière en cours d'installation dans la ville de Beni. Palou Koumatofali parle du fonctionnement de ce service dans cet extrait choisi par André Kitenge.
À tous les assujettis, à tous ceux-là qui manipulent les recettes publiques ou qui touchent les deniers publics, de savoir que désormais, la brigade financière est ici, désormais, nous avons un service de contre-vérification ici, et donc, les actes qu'ils auront à poser seront désormais contrôlés. Nous demandons aux opérateurs économiques et à tout le monde de se ranger en ordre utile, parce que nous ne sommes pas venus faire la chasse aux sorciers, non. Mais ensemble, nous allons travailler pour maximiser les recettes, parce que nous ne disposons pas des formules à la baguette magique, non. Nous ne sommes pas Dieu le Père, dire que nous allons dénicher, tel a fraudé, tel n'a pas fraudé, tel a minoré les recettes ou sur la note, ou sur le bordereau. Non, nous ne sommes pas des magiciens. Mais ensemble, nous allons collaborer pour voir comment maximiser les recettes et faire les projets du pays. Parce qu'il y a ceux-là qui se lamentent que non, le gouvernement ne fait rien. Et pourtant, les recettes de l'État restent dans nos poches à nous-mêmes.
Rendons-nous au Kasaï central. La représentante du HCR en RDC a bouclé hier son séjour à Kananga après avoir lancé le programme d'encadrement des filles victimes de violences. Une séance a été organisée à l'intention d'une soixantaine sélectionnées et ayant bénéficié des bourses de cette agence onusienne. François Kadima nous en parle.
Ces filles sont surtout celles qui ont subi les violences sexuelles. La session organisée en leur faveur et pilotée par la représentante du HCR en RDC a consisté à leur expliquer la nécessité pour elles d'avoir une vision et de se prendre en charge après avoir bénéficié des bourses universitaires. À Wallis.
Donc quand on dit jeunes filles visionnaires, notre intention c'est de vous inciter, de vous encourager à avoir une vision. Certes, les événements de Kamuina Nsapu ont eu lieu ici, mais nous ne devrions pas être définis par ces événements.
Ayant suivi ces conseils au cours de la séance, l'une des filles s'est engagée à défendre les droits de la femme après ses études.
En tant que fille visionnaire, moi je vais devenir magistrate à la fin de mes études parce que je fais le droit. Pour commencer à défendre les droits, surtout des femmes, parce qu'elles sont parmi les catégories de gens vulnérables.
Devant la presse avant son départ, la représentante du HCR en RDC a indiqué que le projet d'encadrement des filles et octroi des bourses concerne jusque-là le Kasaï et le Kasaï central et va également s'étendre au Kasaï oriental. De Kananga, François Kadima, Radio Kapi.
Une mission du chef de bureau du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, bureau de l'Est de la RDC basé à Goma, est à Kindu pour évaluer la collaboration entre cette institution et la province du Maniema. Kenneth Euzo a précisé que UNFPA appuie cette province dans le domaine de la santé ainsi que la réparation des femmes fistuleuses. Il a aussi annoncé l'arrivée dans les prochains jours au Maniema du représentant résident de l'UNFPA. Kenneth Euzo, chef de bureau de l'UNFPA dans l'Est de la RDC, explique au micro de Florence Kizalunga.
Nous sommes arrivés aujourd'hui avec une équipe de la santé pour venir apprécier la collaboration qui existe entre UNFPA et la province du Maniema, une collaboration qui existe depuis 2006 et échanger avec les autorités, notamment le gouverneur de la province, Monsieur Mangala, pour discuter un peu des préoccupations en matière de la santé de la reproduction, questions de VBG et des questions de population. Nos échanges ont porté sur notamment le renforcement de la collaboration entre les deux partenaires, UNFPA et la province du Maniema, pour s'assurer que UNFPA continue d'appuyer la province dans le renforcement des capacités du personnel de la santé, notamment les sages-femmes, certaines maternités, l'appui en équipement et en médicaments pour faciliter et réduire les décès maternels qui sont à peu près de 219 pour 100 000 naissances dans la province. Aussi, nous allons appuyer la province pour les réparations des femmes qui souffrent de fistules.
Signalons que cette délégation s'est rendue hier à Kalima pour évaluer des activités menées par leurs partenaires. Kasaï Oriental, signalant la remise hier à Mbujimayi d'un lot important des équipements médicaux, des médicaments ainsi que des générateurs, dont du président de la République. La cérémonie de remise a été présidée à la division provinciale de la santé par le gouverneur intérimaire du Kasaï Oriental. 22 structures sanitaires publiques, confessionnelles et privées vont bénéficier de ces intrants pour renforcer la couverture sanitaire universelle, affirme le président de la task force présidentielle.
Actualité, Afrique Monde.
L'Afrique du Sud a lancé hier au Cap la première usine du continent qui fabriquera des doses anti-Covid de A à Z. Elle est financée par le milliardaire des biotechnologies Patrick Soon-Shiong. L'objectif est la production d'un vaccin de deuxième génération et nous voulons le fabriquer en Afrique pour l'Afrique et l'exporter dans le monde entier, a déclaré l'homme d'affaires américain d'origine chinoise né en Afrique du Sud. Les premiers vaccins seront produits cette année et le site devrait atteindre 1 milliard de doses par an d'ici 2025, a-t-il dit. Le président égyptien a porté mardi le salaire mensuel minimum à environ 172 $, une mesure destinée à alléger le fardeau des Égyptiens, victimes de douloureuses mesures d'austérité ces dernières années. C'est la troisième fois que le président Abdel Fattah al-Sissi augmente le salaire minimum depuis son entrée en fonction en 2014. L'annonce est intervenue après une rencontre avec le premier ministre, le ministre des Finances et d'autres responsables financiers pour discuter du prochain budget. Des primes pour les enseignants ont également été annoncées.
L'invité.
Ce matin, nous recevons le capitaine Anthony Mualushai, porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord. Il s'exprime sur le contenu de la réunion conjointe FARDC armée ougandaise UPDF, réunion tenue le week-end dernier sur la sécurisation des travaux de réhabilitation de la route Beni-Kassindi. Le capitaine Anthony Mualushai s'entretient avec Marc Marofimbo.
Monsieur le capitaine Anthony Mualushai, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de la récente réunion qui s'est tenue à la cité frontalière de Kassindi entre les deux forces qui sont en opération dans la région de Beni?
Vous vous rappellerez que dernièrement, le gouverneur des provinces, le lieutenant-général Constant Dimon, était ici pour lancer, n'est-ce pas, les travaux de réhabilitation de la route des tronçons entre Beni Kassindi et Beni Butembo et jusqu'à Kanyabayonga. Donc, les tronçons-là seront exécutés par les deux pays, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, notre pays, et la République de l'Ouganda. Alors, il faut maintenant sécuriser la route. La sécurisation de ces tronçons, c'est notre affaire en tant qu'armée, en tant que service de sécurité. Pour ce faire, nous étions là-bas parce que c'est les deux pays qui sont concernés. L'objectif principal, c'était de planifier les stratégies pouvant aider nos deux forces à sécuriser les travaux qui vont bientôt démarrer. Parce que je pense qu'au courant de la semaine, il y aura déjà des engins qui vont traverser du côté RDC pour commencer les travaux. Au-delà des engins, il y a des engins qui travaillent. Ils ont aussi droit à la sécurité. Vous savez, les tronçons là est traversé souvent par l'ennemi qui est en train de fuir les bombardements et les tracts des forces armées de la République démocratique du Congo. À tout moment, il peut surgir à un endroit et faire mal aux travailleurs. Nous ne voulons pas que de tels incidents arrivent. Donc, nous étions là pour voir dans quelle mesure il faut à tout prix sécuriser cette route pour que les travaux que nos deux chefs d'État ont pris l'initiative de moderniser la partie Est évoluent très bien sans incident quelconque.
Alors, après plusieurs jours d'élassement, c'est aujourd'hui que cette évaluation aura lieu sur la situation sécuritaire. Est-ce pas aussi une des raisons du retard de début des travaux effectifs?
Au-delà de l'élassement qui est officiel, il y a plusieurs mécanismes. Par exemple, il faut que la société qui devrait commencer les travaux attendait déjà les agents qui venaient de l'autre côté de l'Ouganda pour traverser. Ça, c'est un fait. Et aussi, il faut qu'on recrute les travailleurs. Ce sont les enfants de Beni qui vont aller travailler là-bas. Et au-delà, il faut nettoyer d'abord la zone. C'est pourquoi on avait intensifié les opérations de ce côté-là, du côté Rwenzori. Il y avait nos services non apparents qui étaient à Kassindi, qui ont beaucoup travaillé. On a démantelé les réseaux des hommes qui planifiaient comment saboter l'entrée des engins et aussi comment saboter ces travaux en général. Il a fallu aussi échanger avec les chefs coutumiers, les responsables, les notables de la région pour qu'ils comprennent le bien fondé de ces travaux. Nous sommes africains, il y a toujours des cérémonies qu'on fait avant de lancer les travaux. Donc tout a été déjà planifié et maintenant il ne reste que l'entrée des engins pour que les travaux commencent.
Donc si on comprend bien, déjà il y a une assurance de la sécurisation et des engins et des travailleurs qui vont travailler sur la route Beni-Kassindi.
Exactement, c'est pourquoi nous étions là-bas. Nous ne voulons pas que non seulement que ce soit l'affaire de l'armée congolaise, mais c'est aussi l'affaire de l'armée ougandaise, c'est aussi l'affaire surtout de la population et qui est vraiment bénéficiaire, n'est-ce pas, de tout ce qu'on fait comme travaux. Et ils vont travailler, ces gens-là vont rester là pendant plusieurs mois sur ce tronçon pour les travaux, bien sûr, et les commerces vont s'intensifier. Et voilà, tout ce que nous allons entreprendre comme activité sur ce terrain, ça va payer. Parce que tu vois, quand il y a des gens, ils auront besoin de main-d'œuvre, de l'eau, ce sont nos mamans, nos jeunes filles qui vont aller épuiser. Donc nous aurons besoin de main-d'œuvre dans tous les domaines. Ça montre vraiment que la sécurité est vraiment très nécessaire pour sécuriser tout ce monde-là, pour sécuriser tous les travailleurs et tous ceux qui vont contribuer au développement de ces travaux.
Capitaine Anthony Marchay, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Notre invité, le porte-parole des opérations Sokola 1 dans le Grand Nord, répondait aux questions de Marc Marofimbo. C'est la fin de ce journal supervisé par Alain Rungmushinj. Merci à vous de l'avoir suivi.